Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Grand Mal vous fasse. C'est une inquiétude qui gagne du terrain, surtout chez les jeunes. L'anxiété liée à l'état de la planète, feux de forêt, inondations, élévation des températures, multiplication des épisodes de canicule, annonces alarmantes d'organismes internationaux. Ces événements climatiques ont un impact sur notre psychisme en provoquant des émotions désagréables, en dégradant notre santé mentale. Ce matin, nous vous proposons des moyens pour faire face à cette inquiétude liée à la dégradation de notre planète. N'hésitez pas à poser vos questions, à témoigner au 01 45 24 7000, sans oublier de nous laisser une note vocale sur l'appli France Inter. Bonjour Marie-Laure Sunshine.
Bonjour Ali.
Chef du service actualité de Femmes Actuelles. Des questions pertinentes comme d'habitude le mardi.
Et puis surtout, on va essayer de redonner espoir aux plus jeunes. Il y a du boulot, je crois, ce matin.
Effectivement. Bonjour Eric Libiou.
Bonjour Ali.
En alternance avec Christophe André, quoi de neuf dans vos choses presque vues?
Eh bien écoutez, aujourd'hui, on va parler d'un peu de tout, et notamment de la pluie et du beau temps.
À tout à l'heure. Bienvenue dans Grand Main vous fasse, la vie quotidienne, mode d'emploi.
France Inter, Ali Rébéi, Grand Bien vous fasse.
Des incendies géants et des températures caniculaires sur le pourtour méditerranéen.
Chaque année, 8 millions de tonnes de plastique se déversent en mer.
I want you to panic.
Plus inquiétant encore, des méga-feux ravagent actuellement la Sibérie, peu habituée à ce genre d'épisode climatique.
I want you to feel the fear I feel every day.
L'idée de l'effondrement irréversible du monde tel qu'on le connaît se répand et a des conséquences sur notre morale.
Ça me stresse, c'est vrai. Ça me stresse. Dans mon quotidien.
Moi, malheureusement, je ne serai plus là pour voir ce qui va se passer, mais ça m'inquiète beaucoup.
Vous comprenez ces angoisses-là?
Oui.
Bien sûr.
Bien sûr. Ça fait peur.
Oui.
Montage signé Claire Destacan. Bonjour, docteur Célie Massini.
Bonjour.
Vous êtes autrice et interne en psychiatrie, créatrice du blog missblemish.fr et vous publiez avec le professeur Antoine Pellissolo, que nous attendons, Les émotions du dérèglement climatique, sous-titré L'impact des catastrophes écologiques sur notre bien-être et comment y faire face. C'est publié chez Flammarion. Bonjour Sébastien Dolaire.
Bonjour Ali.
Neuroscientifique de formation, rédacteur en chef du mensuel Cerveau et Psycho, consacré ce mois-ci notamment, je vous le donne en mille, à l'éco-anxiété. Bonjour Laure Noilla.
Bonjour.
Vous êtes journaliste et autrice de « Comment rester écolo sans finir dépressif » chez Tana Édition. Alors Célie Massini, dans votre livre, vous vous intéressez à l'effet du dérèglement climatique sur notre santé mentale. Parmi les émotions les plus fréquentes, on retrouve l'anxiété. Pouvez-vous nous rappeler peut-être ce qu'est l'anxiété, docteur Célie Massini ?
Alors l'anxiété, c'est une inquiétude et toutes les manifestations qui vont aller avec cette inquiétude, qui sont souvent des manifestations donc corporelles. Donc ça va pouvoir être un peu, c'est l'activation en fait de notre corps comme face à un danger. Donc des palpitations, la respiration qui se fait un peu plus courte, etc. Mais il va y avoir aussi tout le côté psychologique de l'anxiété qui là va être une activation en fait mentale avec des inquiétudes, des pensées qui tournent en boucle et qui sont focalisées sur le sujet d'inquiétude. Et donc là, dans le sujet qui nous intéresse, ça va être l'écologie.
L'éco-anxiété, on en parle depuis quelques années. Alors dans le Robert, l'éco-anxiété, c'est, je cite le Robert, la forme de détresse psychologique née du sentiment d'impuissance face à la dégradation de son propre environnement dont on est dépossédé et qu'il faut se réapproprier comme s'il s'agissait d'un exil immobile. Quelle est votre définition de l'éco-anxiété, docteur Célie Massini ?
Alors l'éco-anxiété telle qu'on l'a définie dans le livre et à partir des études scientifiques qu'on a pu regrouper pour faire ce travail-là, c'est finalement l'inquiétude face aux menaces actuelles et aux futures qui planent sur la planète, sur le système Terre. Donc c'est une inquiétude qui est prospective. On a pu parler dans certains papiers de stress pré-traumatique, c'est-à-dire en fait une anticipation de ce qui va pouvoir advenir à partir des données dont on est aujourd'hui dépositaire.
Alors vous le montrez bien dans votre livre, hein, les catastrophes climatiques comme les épisodes de canicule, les inondations, les tempêtes, les incendies ont un impact sur notre santé mentale, sans oublier les annonces alarmistes d'organismes internationaux comme le GIEC qui créent de l'inquiétude.
Oui, exactement. Ça crée de l'inquiétude, mais c'est une inquiétude qui est qui est bénéfique d'une certaine manière. Là, le message, il n'est pas de dire il faut arrêter de publier des rapports du GIEC parce qu'on est tous très inquiets. Mais effectivement, ces informations, elles vont susciter de l'inquiétude, mais elles vont pouvoir aussi susciter de l'engagement et du passage à l'action. Donc, c'est un peu...
Sébastien Boller, de Cerveau Psycho.
Oui, je me demande s'il n'y a pas une petite nuance à ajouter entre inquiétude et éco-anxiété. Moi, je connais des gens, j'en fais partie, qui sont inquiets, très profondément inquiets, mais pas éco-anxieux, c'est-à-dire je n'ai pas les répercussions physiologiques que vous citiez. Et je pense que c'est là qui se situe le point de bascule qui fait qu'à un moment, on est vraiment impacté dans son corps, dans sa capacité à fonctionner au jour le jour. Et c'est ça que nous dit aussi Greta Thunberg dans l'extrait qu'on a entendu. Elle parle de panique, elle parle de peur. Et elle dit, je voudrais que vous puissiez ressentir ma peur. Et ça, c'est un aspect très important, je crois, le partage de ça.
Alors, des chercheurs franco-américains ont montré en 2020 qu'il est possible d'identifier et de mesurer un type d'anxiété liée aux problématiques climatiques. Que constatez-vous dans votre service, Antoine Pellissolo?
Bonjour.
Professeur Antoine Pellissolo, psychiatre et psychothérapeute, chef de service au sein des hôpitaux Henri Mondor et Albert Chenevier à Créteil.
Alors, ce que l'on voit de plus en plus, c'est des personnes qui ont des manifestations d'angoisse. C'est pas très courant encore, je pense que c'est surtout des personnes que l'on suit pour d'autres problèmes d'anxiété au départ, qui ont des troubles anxieux, c'est-à-dire des pathologies autour de l'anxiété, de l'angoisse, et dont la thématique environnementale devient de plus en plus forte, et avec des répercussions. Donc là, ça peut être les troubles du sommeil, les troubles de la concentration, parfois, et surtout des pics d'angoisse. C'est pas en permanence, c'est au moment des confrontations avec les mauvaises nouvelles, avec les images qui accompagnent les catastrophes, qu'il peut y avoir des formes de décompensation.
Alors, l'une des grandes questions qui se pose, c'est s'il existe un lien entre les angoisses face à l'avenir de notre planète et certaines maladies mentales comme la dépression ou les troubles obsessionnels compulsifs. En tout cas, les preuves scientifiques s'accumulent, docteur Céline Massini.
Oui, c'est ce qui semblerait que ça puisse être un facteur de risque de développer des troubles qui sont caractérisés et bien connus et pour lesquels on a des traitements, des psychothérapies qui sont déjà validées.
Prenons un exemple. En 2012, une équipe de recherche de l'Université de Sydney a montré que près d'un tiers des personnes atteintes de troubles obsessionnels compulsifs en Australie souffraient de ces compulsions afin de réduire leur empreinte carbone.
Oui, effectivement. Et donc, en fait, c'est-à-dire que le TOC s'était cristallisé sur des compulsions en lien avec la préservation de l'environnement. Donc, ça pouvait être fermer les robinets et bien trier ses déchets, etc. Et avec, du coup, des idées obsessionnelles autour de l'impact que notre comportement pouvait avoir sur la planète.
Professeur Pellissolo.
Oui, c'est pas très étonnant parce que quand on connaît un peu les TOC, on sait qu'il y a en arrière-plan souvent des questions de responsabilité, voire de culpabilité et de protection d'une certaine manière. Donc là, c'est protégé. D'habitude, c'est un peu soi-même ou ses proches. Mais là, ça peut être étendu à la protection un peu de manière un peu magique, un peu virtuelle parce que on sait bien que c'est pas ces gestes-là qui vont sauver la planète. Mais quand même, avoir un effet de déculpabilisation vis-à-vis des dérèglements en cours.
Laure Noilla.
Oui, j'ajouterais, en fait, j'ai également fait un travail dans la petite ville où je vis, qui est une petite ville de province, à 1-2 heures de Paris. Et des personnes tout à fait normales, sans troubles anxieux a priori, se retrouvent aussi dans des situations de gros stress. Il suffit qu'il y ait une belle récolte dans le verger, avec profusion de fruits, ça met en panique. Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que la nature est vraiment en train de se dérégler? Il peut y avoir une obsession qui se dérègle par rapport à, je sais pas, les déchets. Alors oui, trier ses déchets, on sait bien que c'est super bien comme geste, ça pourrait faire du bien et déculpabiliser. Mais à contrario aussi, ça peut paralyser. On ne rentre plus dans un magasin pour acheter quelque chose de neuf parce qu'on voit l'analyse du cycle de vie du projet, de l'objet, pardon. Ça va d'une petite tasse en céramique à un vêtement. Et là, c'est comme si, en fait, le monde, c'était un peu comme Mario Bros, quoi. Vous d'être là avec votre bilan carbone, votre empreinte sur les déchets, sur la biodiversité, sur les animaux que vous emportez avec vous. Donc il y a toute cette c'est super intéressant. Enfin, ça va très loin parfois.
Alors, est-ce l'éco-anxiété qui provoque des troubles psychologiques ou est-ce la maladie mentale qui rend les personnes éco-anxieuses, professeur Pellissolo?
Je crois que c'est il n'est pas question de parler de maladie mentale en l'occurrence, parce qu'on l'a dit, c'est une réaction plutôt saine. Alors, le problème, c'est l'excès de retentissement pour la personne qui, effectivement, souvent correspond à une forme de, on peut dire, de fragilité émotionnelle, peut-être, c'est certaine, qui vont se laisser envahir par, se laisser être soumises à cet envahissement qui on peut considérer comme au départ, on l'a dit, plutôt cohérent, mais qui s'apparente souvent à une forme de sidération. Et le but, c'est souvent de passer cette étape de sidération pour passer à autre chose. Donc c'est là qu'un accompagnement pour réduire le niveau de stress et le niveau comme ça d'inhibition peut être utile.
En tout cas, une étude de l'Université d'Arizona aux États-Unis en 2018, auprès de 340 Américains, a montré que les préoccupations climatiques étaient bien corrélées à des symptômes dépressifs, Sébastien Boller.
Oui, la façon d'arriver à cette conclusion est un petit peu adroite, c'est-à-dire que ce qu'ils ont observé, c'est que les personnes qui sont éco-anxieuses mais qui restent dans le ressenti émotionnel sans action sont très exposées à la dépression. Alors que ceux qui ont une éco-anxiété mais qui développent des actions pour s'adapter, pour changer de façon concrètement de vivre, de s'organiser, on bénéficie d'une forme de protection contre la dépression. Donc ça indique qu'il y a quand même une forme de causalité entre la préoccupation pour l'environnement et la possibilité de développer notamment ici une dépression. Ouais.
Laure Noyla, vous le constatez dans l'enquête pour votre prochain livre?
Oui, en fait, dans le précédent, il y avait deux questions résiduelles, je dirais, à la fin. C'est qui j'ai envie d'être dans le temps qui me reste et puis qu'est-ce que je peux faire? Et du coup, j'ai eu l'idée de partir à la recherche des personnes qui ont bifurqué par ces temps incertains ou qui bifurquent ou qui ont l'idée d'eux. Et il est clair que l'action est le premier anxiolytique. Alors, cela dit, il y a toujours des petites résurgences, hein, c'est-à-dire des petits moments où, en fait, ce que je fais, c'est de la merde. Enfin, c'est pas du tout à la hauteur des enjeux. Il y a des gros moments quand même de désespoir. Mais c'est cet entre-deux. Enfin, moi, j'ai envie de dire qu'en fait, ce côté balancier, je fais et je regarde. C'est-à-dire, je suis lucide par rapport aux enjeux. Je ne me raconte pas d'histoire, mais je fais quand même parce qu'il faut bien que je m'occupe. On est tous, de toute façon, on sait tous qu'on va mourir, hein, et on est tous là à essayer de tenir pour vivre au mieux possible et à faire tout ce qu'on a à faire, aimer, se faire virer, continuer du boulot, voyager, etc. Donc, s'occuper. En somme, et s'occuper en essayant de réduire son empreinte, en alignant ses valeurs, en partant d'un boulot qui nous déprime parce que lui est totalement en dehors du scope des enjeux et des valeurs qui vous intéressent, tout ça, ça met en mouvement et ça allège et ça gonfle les voiles, en fait, de notre bateau et on continue à avancer.
Voilà, mais bon, y a pas premier point positif ce matin, Laure Noyla.
Non, mais c'est ce que j'allais vous dire, juste pour que vous rappeliez bien que quand on parle d'un truc, il faut être super lucide. On n'est pas du tout à la mesure des enjeux, que ce soit nous au niveau individuel, que ce soit nous au niveau politique, collectif. Donc voilà, tout ce qu'on peut faire là où on est, c'est essentiel. Mais ça sera vraiment pas suffisant et ça va faire mal quand même.
Sébastien Boller.
Ouais, c'est très important ce qui vient d'être dit. Je crois que ça rejoint le fond du problème. Pourquoi est-ce qu'on est aussi désemparé par rapport à tous ces changements? Ça tient aussi au fonctionnement du cerveau humain. C'est-à-dire que notre cerveau, il est vraiment équipé pour avoir le sentiment d'être en contrôle. Pouvoir contrôler ce qui nous arrive, c'est le gage de la survie depuis des millions d'années. Et il y a plusieurs façons d'être en contrôle. Il y a arriver à prédire une sorte de régularité. Par exemple, dans les cycles des saisons, c'est pour ça que tout à l'heure, quand Laure Noyla nous disait, il y a des gens qui paniquent en voyant des récoltes mirobolantes à une époque où c'est pas censé se produire, c'est l'idée que les cycles qui sont prévisibles ne le sont plus. Et ça, c'est extrêmement angoissant parce que perte de prévision, perte de contrôle. Et par contre, si on se tourne vers une action, on a l'impression qu'il y a un lien entre ce qu'on fait à un moment donné, par exemple, la façon dont on va organiser son petit potager, puis le moment dont les choses sont produites, avoir un contrôle par les mains, par les actes, sur notre environnement proche, ça restaure l'impression que notre cerveau a de pouvoir contrôler son environnement. On sait très bien où ça se passe dans notre cerveau, c'est une partie qui s'appelle le cortex singulaire antérieur, que j'ai longuement étudié, et qui se trouve être hyperactive à la fois quand on est dans une situation où on ne contrôle plus rien, et à la fois quand chez les personnes atteintes de TOC aussi. C'est-à-dire qu'il y a une suractivité de cette partie du cerveau qui a l'impression qu'il y a quelque chose qui peut arriver, et on va entrer dans une action, soit constructive, soit compulsive, pour calmer cette partie du cerveau. Sinon, c'est la culpabilité aussi.
Professeur Pellissolo.
Oui, et je pense qu'on peut rajouter le fait que ces régions-là, elles sont aussi impliquées dans ce qu'on appelle les dissonances cognitives, quand on a des intentions contradictoires. Je sais que je devrais faire, mais j'arrive pas. Je sais que c'est la catastrophe et il faut continuer à vivre. Et donc, tout ce qui permet de reprendre, en effet, une forme de contrôle raisonnable, parce qu'on n'a pas le contrôle sur tout, ne peut être que bénéfique pour atténuer cette dissonance.
Docteur Massini.
Oui, effectivement, c'est le fait de mettre en cohérence son quotidien avec ses valeurs, ses croyances et ses inquiétudes et les données dont on a connaissance. Ça, c'est vrai que ça participe à réduire l'anxiété parce que du coup, on a l'impression d'avancer dans la bonne direction et quelque part, on s'auto-rassure, même si, encore une fois, bon, à l'échelle globale, ça a un impact qui reste limité, mais il n'empêche que si on était 7 milliards à mettre en cohérence nos inquiétudes avec nos actes, on aurait un impact significatif.
La question de Marie-Laure Zonshine, de Femme Actuelle, que toute la France attend. Marie-Laure.
Au moins. Je rebondais sur ce que disait Céline Massini en début d'émission. Le rapport du GIEC et toutes ces informations qui sont véhiculées donc par des ONG, par des États, par des militants et qui alimentent cette éco-anxiété. Alors, d'un côté, bien évidemment, c'est nécessaire pour en prendre conscience, pour prendre la mesure du chemin à parcourir et de ce qui peut être fait. Mais de l'autre, ça paralyse. Donc finalement, quel est le bon curseur? Comment concevoir peut-être des campagnes de sensibilisation qui soient efficaces pour rester en alerte, rester vigilant, sans nourrir et alimenter cette éco-anxiété auprès de publics qui sont le plus sensibles à ces questions.
Laure Noualin.
C'est-à-dire
sur le fait que, sur la question de Marie-Laure, sur le fait que peut-être que certains rapports alarmistes, etc., peuvent nourrir cette éco-anxiété.
Moi, c'est ma Madeleine de Proust, un bon rapport du GIEC, une commémoration d'Hiroshima et de Fukushima, et bim, ça retombe. Écoutez, si vous voulez, je trouve ça vachement intéressant. C'est-à-dire, on évite le syndrome de l'autruche en se disant, on va continuer comme si de rien n'était. Et c'est une, comment dire, ça replonge évidemment. Et vous allez aux sources quelque part. Pour certains, vous allez aux sources, vous prenez une semaine de repos, de calme, à distance, pour refaire le point. Et pour revoir si vous êtes à peu près aligné, si vous êtes dans ce contexte-là, à votre place. Parce que je crois que c'est ça qui est le plus important au final, c'est de se sentir à sa place et dans les actions à votre mesure, à nos mesures, à accomplir dans la mesure où on sait bien que de toute façon, nous ne serons pas à la hauteur des enjeux. C'est très compliqué, hein, parce qu'en plus nous sommes dans des existences perpétuellement contradictoires, avec des achats, des sollicitations. Regardez, on vient de vivre le Black Friday, mais est-ce que c'est pas une idiotie totale de nous dire d'aller acheter encore des pulls, des chaussettes et je ne sais quoi, alors qu'on a déjà tout ce qu'il faut pour la plupart et que peut-être, réduire notre consommation, être plus humble. Là, je suis au milieu du Vercors, il y a plein de neige, mais qu'est-ce que c'est beau, j'ai besoin de rien ici. Et ben ça, en fait, finalement, un bon rapport du GIEC et voilà, vous vous retrouvez avec au centre des questions.
Céline Massini.
Par rapport à la question de est-ce que on diffuse ou pas les informations et la manière dont on la diffuse, je pense que c'est très important de ne pas prendre une position paternaliste, à savoir on n'a pas. Il n'y a personne qui a à prendre la décision de cacher des informations de chacun. C'est-à-dire que ces informations, elles doivent être communiquées et chacun doit pouvoir y avoir accès de la manière qui est importante pour lui. Mais en revanche, je pense que ces informations, donc on peut réfléchir à la manière de les communiquer, mais c'est également ces informations qui font qu'il y a eu une prise de conscience collective de la population et la création de plein de collectifs, la création des mouvements pour le climat, etc., qui obligent les politique à prendre des actions, parce que les intérêts du pouvoir politique sont très proches des intérêts des grandes entreprises, et du coup leur intérêt n'est pas forcément de prendre des mesures et de prendre des lois qui vont aller dans le sens de la préservation du climat.
Sébastien Boller.
Oui, la question qui est posée, c'est est-ce que la peur pousse à l'action ou est-ce que la peur paralyse ? C'est quand même c'est une sacrée question. Mais en fait, on a des débuts de réponse à ces questions-là, qui nous viennent notamment des études qui ont été faites sur les campagnes de prévention du tabagisme et des accidents de la route. C'est-à-dire que pendant un moment, il y avait des campagnes basées sur la peur, avec des messages très très choquants. Bon, on s'est rendu compte qu'en général, les gens étaient tétanisés et ils changeaient pas. Par contre, là où il y a un changement, parce que c'était le deuxième volet de ces études-là, c'est quand on ajoute un facteur qui s'appelle l'auto-efficacité. C'est-à-dire que derrière la peur, on donne aux gens des clés pour leur dire « vous êtes capable de changer pour telle ou telle raison, vous pouvez vous tourner vers tel spécialiste, vous pouvez mettre en place ceci, il y a des numéros verts, enfin tout un ensemble de choses ». On donne aux gens, on les persuade qu'ils peuvent y arriver. Et là, l'action s'enclenche. Ce que ça veut dire dans notre cas présent, c'est qu'il faut faire peur, évidemment, parce que la situation est effrayante. Mais derrière, il faut qu'il y ait des solutions proposées. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors là, pour l'instant, les solutions, elles sont entre les mains des individus qui disent « je vais me débrouiller moi-même ». Mais ça peut pas être suffisant, on le sait très très bien. C'est-à-dire que les pouvoirs publics doivent proposer quelque chose qui sous-tend l'auto-efficacité, c'est-à-dire soit des phénomènes d'entraînement collectif, soit simplement des infrastructures. Un exemple typique, c'est les déplacements en voiture. Vous dites aux gens, ok, c'est terrifiant, la planète va brûler. Mais derrière, il faut de l'auto-efficacité, il faut des solutions, il faut par exemple des transports en commun, dignes de ce nom, performants, tout ce que vous voulez. Mais c'est de la psychologie, on sait ça.
Des transports en commun qui vous permettent d'arriver à l'heure, Sébastien. Dans quelques instants, vous verrez quels sont les effets directs et indirects du réchauffement climatique sur notre santé mentale et comment faire face à cette éco-anxiété. En attendant, on écoute Christine and the Queens.
Souffle saccadé, voilà qui laisse deviner que tout se décide, tout se décide. Maquillé comme à la craie, tout détonné, tout me plaît, les mains sont livides, vides. Mains sont livides, vides. Seul de tes poignets est tatoué, défiguré par ta manche. Le lion ne sourit qu'à moitié, âme solitude immense. Ton visage ne sera jamais entier, comme tu regardes au dehors. J'emporte un portrait dévoré, tout leur destin bord à bord. Kiss my station. Kiss my station. Patience comme certitude, collier à trois fils, lié à trois fils, fils. Tu seras, j'espère, fidèle aux violences qui opèrent dès que tu respires, pire, que tu respires, pire. Partenaire, cette ville n'offre rien qu'une poignée d'odeurs tenaces. Que cette ville est morte, je sais bien. Toi seul garde de l'audace, il faudrait que tu la portes loin. Alors que d'autres renoncent, je descends deux enfers plus loin pour que l'orage s'annonce. Kiss my station. Kiss my station. Kiss my station.
Christine and the Queens, Saint-Claude.
Grand bien vous fasse. Ali Rebéi. Sur France Inter.
10h31 et on s'intéresse ce matin à l'éco-anxiété, cette angoisse, cette déprime liée aux dérèglements et catastrophes climatiques. Nous attendons vos questions et témoignages au 01 45 24 7000 ou en laissant une note vocale sur l'appli France Inter. Je vous propose d'écouter Suzanne, 16 ans, dans l'émission Interception sur France Inter le 21 novembre dernier.
Je me définis comme éco-anxieuse optimiste. Des fois, c'est même pas des journées, des fois, c'est juste vraiment juste des moments, ou bien ça peut s'étendre sur plusieurs journées. Mais ça se manifeste par, je sais pas, des pleurs, ou juste des gros moments, on n'arrive pas à penser à autre chose, ou c'est tout rejoint tellement ça, que c'est impossible de se projeter, c'est impossible, enfin, tout, on pense tout le temps à ça. Enfin, moi, je sais que j'ai des moments, des journées vraiment, je pensais qu'à ça. En cours, on n'arrive pas à se concentrer sur autre chose parce que tout ce qu'on dit dans le cours, c'est ramené à ça, en fait. Et ça fait peur. Parce que c'est impossible, en fait, de parler d'autre chose tant qu'on n'a pas réglé ça. Et je comprends pas que les gens soient pas aussi alarmés que nous. Ça aussi, ça me fait paniquer de me dire que les gens continuent de se comporter comme s'il n'y avait pas de soucis. Alors que, non, enfin, c'est... On devrait quand même tous avoir un moment où on est là genre « Wow, wow, wow !» Pourquoi est-ce qu'on continue de vivre notre vie comme si tout allait bien alors que c'est pas le cas ?
Suzanne, 16 ans, dans Interception sur France Inter le 21 novembre dernier. Sébastien Boller de Cerveau et Psycho. Les jeunes sont plus touchés, sont plus éco-anxieux que le reste de la population générale ?
Les études quantitatives dont on dispose ont porté sur les jeunes et elles montraient des taux de préoccupation très élevés. La dernière qui est parue, celle dans le journal Lancet, qui montrait que 43% quand même des 16-25 ans rentraient quasiment dans ce qu'on considère être l'éco-anxiété, une grave préoccupation, qui voulaient vraiment changer leur vie pour éviter cette souffrance, faire quelque chose absolument.
Antoine Pellissolo, psychiatre.
Oui, et ça vraiment dans le monde entier, puisque cette étude, elle porte sur 10 pays, et pas que des pays du Nord. On pourrait considérer que c'est des problématiques un petit peu lointaines, dans les pays pauvres notamment. Et donc, il y a un effet de génération, probablement, parce que la projection dans l'avenir concerne plus les jeunes, évidemment, dans les décennies à venir. Mais il y a aussi un effet de groupe, parce que c'est un sujet pour les jeunes. Pour notre génération, les boomers, on pouvait avoir des inquiétudes, mais c'était pas un sujet de conversation de tous les jours. Je crois que pour les jeunes, ils sont nés avec, et c'est un sujet qui peut, pour certains, aggraver, comme on l'a entendu là chez Suzanne tout à l'heure, peut aggraver un sentiment vraiment d'angoisse qui peut être fort.
Il y a une différence importante en fonction de l'âge, c'est-à-dire que c'est la logique du déni aussi qui est différente. C'est-à-dire que quand vous êtes déjà installé dans une profession où vous devez continuer en fait d'exercer une activité qui est néfaste à la planète. Il y a plein de domaines de l'économie où on est installé à des postes où ce serait difficile de changer une fois qu'on est engagé dans une voie professionnelle. Et donc là, la dissonance cognitive dont on parlait, c'est entre ce qu'on sait, ce qu'on voit à la télé, et puis le fait que peut-être on est en train de fabriquer des bouteilles en plastique pour un grand groupe de yaourts, j'en sais rien, et que là, la dissonance, elle est frontale. Comment accorder les deux? Et le cerveau s'arrange en général pour fermer les yeux sur la réalité. Alors que des plus jeunes ne sont pas confrontés à ce problème. Eux, ils n'ont pas de rente de situation. Ils ne sont pas obligés de forcer leur cerveau à un déni artificiel pour continuer à faire ce qu'ils font, parce qu'ils sont devant un avenir qui est à écrire. Donc, le mécanisme du déni est beaucoup moins opérant et ils se trouvent face à la réalité beaucoup plus que des plus de 50 ans, par exemple. En général, à mon avis, on le voit.
Oui. Laure Noyla, journaliste indépendante.
Oui, alors, en fait, ce qui est intéressant dans ce qui est dit, c'est que moi, je me rends compte qu'en travaillant avec les personnes qui maintenant se sont mis dans l'action, finalement, il y a encore plus de questions qui arrivent, et celles-là, elles sont tout aussi passionnantes. C'est-à-dire, finalement, l'action, c'est le début d'autres questions, d'une infinité d'autres questions. Où est-ce que je pars? Est-ce que je contribue à l'exode urbain? Je vais à la campagne? Ah oui, mais attendez, la campagne, il me faudra une voiture, donc c'est pas écolo. Est-ce que je reste en ville et je suis encore victime de cette accélération? Avec qui je pars? Seul? En groupe? En famille? Est-ce que je monte un écolieu à plusieurs? Au fait, je vais faire quoi? Je change d'activité du tout au tout? Mais est-ce que je suis pas trop vieux, pas trop jeune? Voilà. Et puis après, un puissant fond de questions pour essayer finalement d'aligner sa vie, quoi, avec ses valeurs. Donc ça sera sans fin.
J'aimerais qu'on réponde concrètement à Claire qui nous écrit: les ados sont à l'âge de la prise prise de conscience et de la lucidité, comment les rassurer? Le mien, mon ado, commence à parler de lutte armée, de violence, de guérilla, et je n'arrive plus à le convaincre que la non-violence fonctionne. Docteur Célie Massini.
Alors, par rapport à ça, je pense que il y a des livres qui parlent de la désobéissance civile et de l'action non violente par rapport à ça. Il y a énormément d'associations qui parlent de ces sujets-là et qui, du coup, auront des réponses beaucoup plus pertinentes que celles que moi je pourrais apporter puisque je suis pas du tout spécialiste de ces questions-là. Après, je pense que ce qui est aussi intéressant, c'est de prendre un peu de perspective et un peu de recul. Quand on prend 3 pas de recul, ne serait-ce que dans les années 2010, il n'y avait pas de grève pour le climat. Il n'y avait pas les gens qui se mettent massivement à défiler dans la rue en demandant une action maintenant concrète des pouvoirs politiques. Alors que toutes ces informations dont on dispose aujourd'hui, on en dispose depuis les années 70. Donc on pourrait se dire, non mais là c'est parce qu'aujourd'hui on sait. Non, on sait depuis très longtemps. Mais aujourd'hui, il y a quand même quelque chose qui est en train de se passer dans la société. Un mouvement de fond qui est très important et qui est porteur d'espoir. Tous les politiques parlent de l'environnement.
Alors on le voit, le réchauffement climatique, la chute de la biodiversité, les catastrophes naturelles ont un impact sur notre psychisme. La palette des émotions désagréables est assez large. Des émotions désagréables qui peuvent créer une véritable confusion intérieure, mais elles ont tout de même une utilité, Antoine Pellissolo, ces émotions désagréables liées au réchauffement climatique ou aux catastrophes.
Elles ont comme principal objectif de nous faire réagir, hein, puisque le réflexe humain naturel, c'est d'essayer de fuir ces émotions négatives et donc de supprimer leur cause d'une certaine manière. Donc on peut considérer que c'est un déclencheur. Mais derrière, il faut, comme on l'a dit, trouver des moyens de se trouver des objectifs, de se sentir utile, d'avoir une action. Et je pense qu'on l'a déjà dit, mais l'action en collectivité, pour répondre notamment à la mère de ce jeune ado, je pense qu'il faut leur dire, c'est bien de se révolter, c'est souvent ce qui se passe à l'adolescence, mais il faut surtout que ces jeunes se sentent écoutés pour éviter de tomber dans la violence. Donc de se sentir écoutés, ça veut dire que nous les écoutions et qu'il y a un partage autour de ces questions, un partage des émotions. On arrive à mieux gérer ces émotions quand on les partage. Donc tout ça pousse quand même à ce qui se fait naturellement, des regroupements associatifs, des actions militantes pour pouvoir mieux gérer ces émotions collectives puisqu'elles sont communes.
Alors, comment faire face à ces émotions désagréables, à cette éco-anxiété, à ces climato-dépressions? Que proposez-vous à ceux qui viennent vous consulter? Que préconisez-vous?
Alors, il y a à peu près 3 réponses. Il y a la première qui est commune à toutes les problématiques de stress, d'anxiété, voire de dépression, qui est ce qu'on appelle la psychothérapie, l'accompagnement. Et c'est toujours bénéfique parce que l'aspect gestion du stress, qui est un peu banal, enfin que vous connaissez bien ici, est quand même très utile de manière transversale face à toutes les manifestations d'anxiété. Donc la relaxation, la méditation, enfin des actions qui ont un bénéfice pour la personne. Deuxième volet, c'est on insiste beaucoup pour le faire le plus possible en proximité avec la nature, l'environnement. Alors ça peut être par exemple l'activité physique qui est bénéfique aussi pour le corps et l'esprit, mais plutôt à l'extérieur, donc proche de la nature. On s'est aperçu en travaillant vraiment sur ces sujets que autant la nature peut être détruite et avec des dégâts pour la santé mentale, autant quand elle est préservée, il y a un effet bénéfique, la proximité des arbres, de la végétation pour le bien-être. Donc ça, c'est vraiment un aspect qu'il faut valoriser parce que ça correspond en plus aux valeurs de ces personnes. Et puis le troisième niveau, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire pousser à une prise de mise en acte de ces problématiques et donc d'inciter à l'action. Il faut pas précipiter, il faut prendre le temps parce qu'il y a vraiment, c'est un peu comme un deuil, il y a un temps un petit peu de sidération où il faut se reconstruire, mais une fois que ce soit mieux, on peut être accompagné. Donc c'est ce qu'on essaye de faire en accompagnant ces personnes.
En tout cas, vous invitez les éco-anxieux à nommer, à reconnaître leurs émotions, pourquoi pas en tenant un journal de bord, c'est très important pour vous.
C'est vraiment utile pour tout ce qui est intelligence émotionnelle, comme on dit, c'est-à-dire d'avoir des repères et pouvoir analyser pourquoi on ressent de la colère, pourquoi on ressent de l'angoisse, de la culpabilité. Quand on arrive à faire des liens en regardant le caractère récurrent de ces émotions et dans quel contexte elles sont survenues, c'est comme ça qu'on progresse.
Et pourquoi est-il important de partager la parole autour de ces émotions désagréables, docteur Célie Massini?
C'est important parce que souvent, ce que les personnes ressentent, c'est une extrême solitude, de se sentir déjà impuissant parce que les enjeux sont très très grands face à notre échelle qui est quand même très très petite, et de se sentir comme ça seul face à tout ça. Et on l'a vu notamment quand on reprend cette étude du Lancet qui a été publiée en septembre, que il y avait plus de 80% de ces jeunes qui souffrent d'éco-anxiété qu'en avaient parlé à leurs proches, et mais que la moitié d'entre eux avaient eu face à eux un mur, c'est-à-dire des personnes qui pouvaient pas entendre leur inquiétude et qui pouvaient pas entendre ça, et ça renforce la souffrance, alors que quand on peut commencer à tisser des liens et à partager, à être face à un autre humain, et que cet autre humain dise bah j'entends ta souffrance, j'entends ton inquiétude, et bah moi aussi il y a d'autres choses qui m'inquiètent aussi, et bah regarde qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ensemble, bah ça détricote cette solitude, et ça permet de passer à autre chose, et de faire d'autres choses.
Bonjour Chloé, bienvenue.
Bonjour.
Vous appelez de Rouen et vous nous avez dit au Standard que vous étiez enceinte.
Oui, tout à fait, je couche la semaine prochaine.
Bon. Alors justement, dans ce contexte de catastrophe, de réchauffement climatique, de rapport alarmant du GIEC, etc., comment vous vous sentez à quelques jours de donner naissance à un enfant?
C'est assez mélangé en fait. Effectivement, moi j'ai fait pas mal d'anxiété écologique même avant d'être enceinte, et puis je me suis forcément posé la question de faire un bébé ou non, avec un peu de culpabilité aussi de porter cet enfant, enfin d'en rajouter entre guillemets. Et c'est vrai que j'ai pu en discuter avec des amis autour de moi, j'ai même des amis qui ont choisi de pas avoir d'enfant. Moi j'ai 30 ans et c'est vrai que ça fait écho autour de moi. Et voilà, je me posais la question de savoir si on savait évaluer un impact démographique quelque part de cette anxiété sur nos générations, ou si finalement la nature étant ce qu'elle est, les gens continuent à avoir des bébés. Voilà, c'est une question que je me posais.
Très très bonne question. Et Marie-Laure Zonchel, vous avez une question également dans ce sens-là, hein?
Oui, moi j'allais tout à fait dans le sens un peu de ce que disait Chloé, c'est-à-dire que tout à l'heure Antoine Pellissolo citait parmi les préconisations le fait de passer à l'action, et pour certains des jeunes, passer à l'action c'est précisément assez radical, ne pas avoir d'enfant, une espèce de projection finalement, alors même que peut-être avec Chloé et son enfant à venir, elle va pouvoir, à la première seconde de la naissance de son enfant, mettre en place, l'élever, l'éduquer dans le respect de l'environnement, dans toutes ces valeurs que nous, parents, n'avons pas su inculquer à nos propres enfants.
Antoine Pellissolo et Laure Noyla.
Alors ça, c'est un marqueur qu'on a trouvé comme étant quand même très à la fois fort et inquiétant d'une certaine manière. Il y a beaucoup de personnes qui déclarent l'intention de ne pas avoir d'enfants à cause de l'éco-anxiété. Alors ça, pour l'instant, c'est au stade de l'intention, on n'a pas des chiffres de baisse de natalité, mais c'est quand même un révélateur de quelque chose qui est une crise existentielle forte.
Comment rassurer Chloé qui culpabilise un peu, nous a-t-elle dit?
Non, mais bien sûr, on sait bien que l'espèce humaine a besoin de se prolonger, et quels que soient les sujets de crise, en fait, c'est là-dedans qu'on trouve son espoir. Donc je pense qu'on ne peut pas se couper de cet espoir.
Laure Noyla.
Oui, je voudrais aussi répondre un peu directement à la question de Chloé sur l'impact démographique du fait de faire un enfant ou pas. Il faut savoir que la transition démographique de l'humanité est en cours, enfin elle est même largement entamée, puisqu'on est à plus 1,2% de progression par an seulement, soit 86 millions d'humains qui rejoignent la barque humaine chaque année, donc l'équivalent d'un pays, quoi. Et il y a plutôt, dans nos contrées, en Europe, en Russie, il y a plutôt une baisse de la démographie, et ce qui pose plein d'autres problèmes. Il vaut mieux, Chloé, faire un enfant super conscient, peut-être le futur messie de l'écologie, qui va nous trouver toutes les solutions pour remonter le temps, etc., plutôt que d'être malheureuse à pas en avoir fait. Voilà, je pense, pour vous, hein.
Message, Laure Noyla et Chloé, nous vous souhaitons un bel accouchement la semaine prochaine. Merci de nous avoir appelés. Allez, il est 10h45, il est temps de retrouver les choses presque vues de notre ours grognon préféré, Éric Libiot.
France Inter.
T'es quoi, t'es médecin, psychiatre?
Grand bien vous fasse.
Psychothérapeute. Qu'est-ce qui me prouve que t'es psychothérapeute?
Éric Libiot.
Alors, on l'a entendu, hein, depuis le début de l'émission, angoisse du moment, hausse des températures, peur de l'avenir, montée des eaux, exode climatique. Une seule conclusion s'impose, le climat général n'est pas au beau fixe. Enfin, je m'entends, le climat va justement être de plus en plus au beau fixe, donc le climat ambiant le sera de moins en moins. Et que personne ne dise que ce changement climatique lui fait ni chaud ni froid, ce dont il est question n'est d'ailleurs plus le chaud et le froid, mais le chaud et l'effroi. Reste à savoir quelle définition on donnera au beau fixe. Eh bien, je laisse ça aux philosophes. Moi, j'observe que si le climat change, il va aussi falloir revoir toutes les expressions qui s'y rapportent. Car oui, dans ce cas-là, il faut prendre le mal à la racine qui s'assèche et les mots à la source qui se tarit. Par exemple, à une époque lointaine, la température se mesurait au doigt mouillé. L'expression a fait florès pour désigner un calcul intuitif et approximatif. Eh bien, le doigt mouillé, c'est fini. Bientôt, le doigt sera à peine mouillé qu'il sera déjà sec. Donc, l'expression va être mise à l'index et au frigo. Il faudra maintenant mesurer le temps au doigt sec, ce qui est un changement majeur. Et oui, Ali, on le sait, la langue évolue et tient compte de l'environnement climatique et social. On l'a vu avec l'apparition dans le dictionnaire, le Robert, du pronom « yel » qui désigne ceux et celles qui ne se sentent ni ceux ni celles. En l'occurrence, ce pronom désigne « ciel » qui se sentent « ciel ». Du coup, l'expression « ciel, mon mari » n'a sans doute pas le même parfum. Et ce ciel-là n'est ni bleu ni rose. Alors évidemment, quand les mots changent, ça chauffe les esprits. Mais les mots respirent l'air du temps. Quel que soit le temps, les mots vont et viennent, les expressions aussi, et il faut savoir les déboulonner quand elles changent de statut. Ainsi, pour revenir au climat, on sait maintenant qu'il y aura des périodes de sécheresse plus longues et des pluies plus violentes. Mais à quoi vont ressembler les gens qui font la pluie et le beau temps? Et quelles têtes vont avoir les bébés qui ne sont pas nés de la dernière pluie? Seront-ils plus nombreux ou pas? Alors, autre changement de taille à la machine à café, que vont devenir les conversations où l'on parle de la pluie et du beau temps? C'est tout de même assez perturbant tout ça. Les climatologues s'occupent du climat, les dictologues s'intéressent aux dictons et il va y avoir du boulot. Peut-être faudrait-il créer le site Dictolib afin que chacun puisse réinventer ou créer ou transformer un dicton. Noël au balcon, eh bien Pâques au balcon aussi, ce qui n'a vraiment plus d'intérêt. Le dicton du jour, par exemple, le 30 novembre, aujourd'hui, neige de Saint-André peut 100 jours durer, eh bien ce dicton-là va sans doute être de moins en moins juste. Il faudra réécrire aussi la remarque pleine de bon sens de Pierre Dac qui donnera, on dit souvent, fermez la porte, il fait chaud dehors, mais quand la porte est fermée, il fait toujours aussi chaud dehors. En revanche, celle-là, toujours de Pierre Dac, d'une ironie et d'un non-sens mordant, sera malheureusement de plus en plus d'actualité. Pendant la canicule, l'ombre de personnes s'écrit « c'est effrayant, il fait 35 degrés à l'ombre », mais qui les oblige à rester à l'ombre? Alors aujourd'hui, à l'heure où chacun doit faire des efforts et se prendre en main, je propose donc ce nouveau dicton. Qu'il fasse chaud ou qu'il fasse chaud, tes déchets tous les jours, tu vas les trier ou c'est toi qui te fais étrier.
Vous pouvez partager les choses presque vues d'Éric Libiot sur l'appli France Inter. Et ça fait beaucoup rire Antoine Pellissolo. Hein. Dans quelques instants, nos invités nous diront comment reprendre le pouvoir et passer à l'action pour lutter contre ces émotions désagréables liées à l'état de la planète. En attendant, on écoute Rosalia et The Weeknd qui interprètent La Fama.
Yo tenía mi bebé, era algo bien especial, pero me obsesioné con algo que a él le hacía mal. Miles de canciones en mi mente y él me lo notaba, y él tantas veces que me lo decía, yo como si nada. Pasó, me ha dejado en vela, ya no puedo ni pensar, la sangre le hierve, siempre quiere más, puñaladita, está su ambición en el pecho afilada, es lo peor,
mal amante la fama y no va a quererme de verdad. Es demasiado traicionera y como ella viene se me va. Yo sé que será celosa, yo nunca le confiaré. Si quiero duermo con ella, pero nunca me la voy a casar. No hay manera de que esta obsesión se me fuera y desaparezca. Yo aún no aprendí la manera. No hay manera que desaparezca.
Rosalía et The Weeknd interprétaient La Fama.
France Inter. Grand bien vous fasse. Ali Rebéi.
10h52 et on s'intéresse ce matin à l'éco-anxiété, cette angoisse, cette déprime liée aux dérèglements et catastrophes climatiques. Je vous propose d'écouter une note vocale déposée par Selma.
Je suis au collège et je suis déjà assez concernée par le problème de l'écologie, tout ça. Ce qui me rend assez anxieuse. Et j'aimerais bien savoir comment être écolo sans avoir toute l'anxiété qui va avec, tous les problèmes qui vont avec, comme par exemple, est-ce que ce que je fais aura un impact ou des choses du genre. Voilà, merci.
Docteur Célie Massini, qu'est-ce que vous pouvez répondre à Selma ?
Eh bien que c'est sûr que ça a un impact, tout ce qu'on peut mettre en place. Et que, alors, je suis pas sûre que ce soit possible de s'extraire totalement de cette inquiétude, et parce que il va y avoir des informations qui vont arriver, et dans notre quotidien, ben voilà, on va être confronté à des informations négatives, mais je pense que tout ce qu'on peut faire qui va dans le sens de l'action et dans le sens des valeurs qu'on veut défendre et auxquelles on croit va avoir un impact bénéfique. Au final, puisqu'on se sent acteur, et c'est ce que disait Sébastien Boller, ça nous redonne une impression de contrôle.
Laure Noilin.
Bah, déjà, Selma, elle est entourée dans sa classe de personnes probablement comme elle, et si c'est pas dans sa classe, c'est en tout cas dans son établissement. Pourquoi elle monterait pas un club de l'environnement? C'est génial, ça peut être aussi un petit groupe de parole, est-ce que vous vivez ça, etc. On échange, et qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on met en place? Moi, je trouve que c'est pas mal de démarrer tout petit sans se demander si on va pouvoir changer les choses. Et ce serait bien de se rapprocher de personnes comme elle. Et elle peut être la présidente du club de l'environnement. Et ce serait super.
Très, très bonne idée, très bonne initiative, Laure Noilin. Nous accueillons Florence. Bienvenue, Florence.
Bonjour.
Vous appelez de l'Hérault. Quel est votre témoignage, Florence?
Ah, mon témoignage, premier, enfin, il y aurait à dire sur tous les sujets évoqués, mais mon premier témoignage, c'était que j'ai une soixantaine d'années, et je suis éco-anxieuse depuis une trentaine d'années ou 35 ans, et je l'ai transmis à ma famille, malheureusement, c'est-à-dire que autour de moi, ma lucidité, peut-être, ou en tout cas mon éco-anxiété, a fait que maintenant, par exemple, j'ai des enfants qui ne veulent pas avoir d'enfants, enfin, pas tous, hein. Je suis grand-mère aussi, par ailleurs. Voilà, je trouve que peut-être les sujets, heureusement, concernant le climat, la biodiversité, enfin tous les sujets importants de notre époque, sont sortis des radars depuis 2017 à peu près. Mais auparavant, j'avais l'impression d'être comme une bulle d'air sous la banquise, si vous voulez, à essayer de vouloir soulever. Et je trouve que depuis que les sujets sont sortis sur les radars, au-dessus des radars, et qu'on en parle, au moins, oui, beaucoup d'associations se mettent en place pour contrôler la cohérence des projets décidés en très haut lieu et des projets locaux. Voilà. Après, on peut être aussi éco-anxieux sur les diverses solutions apportées, hein. Moi, je crains énormément la géo-ingénierie, par exemple, tout ce qui est beaucoup, enfin, moins au niveau local, mais au niveau national ou supranational, je crains les décisions hâtives, vous voyez, et je panique.
Florence, je crois que le professeur Pellissolo a peut-être une réponse à vous donner. Ce qui est important, c'est que, et vous le dites dans votre livre, c'est que l'acceptation et la lucidité sont des pistes pour alléger son anxiété.
Dans tous les cas, de toute façon, l'anxiété, je pense qu'on peut dire à, notamment à Salma aussi, on ne pourra pas s'en défaire. Et encore une fois, elle est concept social à notre humanité. Par contre, la remettre à sa place, c'est-à-dire ça peut être au départ une alerte qui peut être douloureuse, c'est ensuite un moteur, et à partir du moment où on veut pas la chasser à tout prix, on arrive à la remettre à sa place et reconstruire une vision de l'avenir, et comme elle est très jeune, c'est-à-dire sa vie entière, en sachant qu'il y a des problématiques, le but n'est pas de faire le déni, et c'est très bien d'être conscient et lucide des choses pour agir, mais ça n'empêche pas, en effet, d'agir et de s'ouvrir le champ des possibles, qui sont notamment, on l'a dit, l'action, la solidarité, enfin la bienveillance avec les autres qui n'ont pas forcément les mêmes émotions, mais qu'on peut essayer de partager. Il y a beaucoup de choses à faire, malgré cette anxiété.
Merci beaucoup, Florence, de nous avoir appelé. Pour terminer, comment redevenir acteur, ne plus être en proie à des émotions désagréables liées au réchauffement climatique, Sébastien Boller, en quelques mots.
Alors, je pense que quand on est éco-anxieux, ce qui est important, c'est de ne pas se considérer comme anormal ou comme malade, mais comme, moi, l'image qui me vient à l'esprit, c'est celle d'une sentinelle. C'est-à-dire qu'on a une légitimité pour parler et pour provoquer des changements chez autrui. Donc ne pas porter tout ce fardeau sur soi, mais faire en sorte que ça débouche sur un débat collectif. C'est ça qui peut alléger le fardeau pour la personne et avoir une vraie utilité.
Laure Noalla, vous avez 30 secondes pour conclure cette émission.
Ben oui, effectivement. D'abord, je dirais juste simplement que les éco-anxieux sont en très bonne santé, en fait. C'est ceux qui sont pas du tout inquiets, qui vont pas bien.
C'est vrai.
Et puis, et oui, et voilà, c'est tout. C'est les 30 secondes.
Merci, Laure Noalla. Je recommande d'ailleurs votre livre, Comment devenir écolo sans finir dépressif. C'était publié en 2020 chez Tana Édition. Comment rester écolo sans finir dépressif. Comment rester écolo sans finir dépressif. Merci Antoine Pellissolo et Célie Massini. Les émotions du dérèglement climatique, c'est publié chez Flammarion. Merci d'être venu. Merci Sébastien Boller. Le nouveau numéro de Cerveau et Psycho est en vente et il y a donc ce dossier consacré à l'éco-anxiété. Merci. Demain, les bienfaits des contes de fées à l'occasion du Festival de la littérature de jeunesse à Montreuil.